et d'ouvrir nos cœurs, puisque nous savons que du côté du ciel, tout est ouvert et que nous sommes observés d'en haut comme Job l'était pour la satisfaction du cœur du Père, même si Satan voulait lui faire du mal. Oh, nous te louons et nous te bénissons de ce que tu acceptes ce risque, ô notre Dieu, d'éprouver les tiens pour leur donner l'occasion de confondre Satan et de te glorifier, de manifester que Satan ne sait pas tout, ne peut pas tout, n'est pas partout et qu'il est vaincu. Donne-nous de commencer cette rencontre avec cette certitude que Satan est vaincu et que nous sommes sous le sang précieux du Christ qui peut nous garder de tout mal. Et si quelques microbes rôdent dans ce camp, nous te les remettons et nous te demandons de préserver les tiens pour que rien ne puisse entraver l'œuvre que tu veux faire en nous pour pouvoir ensuite non pas faire que nous travaillions pour toi, mais que toi tu puisses travailler en nous pour toi. C'est la grâce que nous te demandons ce matin, dans l'assurance que nous sommes exaucés, parce que si nous demandons une chose qui est selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes, et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que nous avons les choses que nous t'avons demandées. Oui, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, cette matinée du 19 juillet 88, nous poursuivons notre thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job, mais comme nous vous l'avons dit, nous voulons nous replacer tout d'abord devant ce texte qui est si profond pour nous, si capital, et que nous devrions tous savoir par cœur, aux profondeurs, Romains 11, versets 33 à 35, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, ou de lui, par lui et pour lui, sont toutes choses. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je veux croire, mes bien-aimés, au matin de cette quatrième journée du camp de Dieu, puisque c'est bien cela que veut dire Mahanaïm, que tout commence à s'apercevoir que le livre de Job est un véritable chef-d'œuvre. Victor Hugo ne disait-il pas que ce livre était peut-être le plus grand chef-d'œuvre, mais il disait de la pensée humaine. Un autre auteur a pu dire que ce livre s'élevait comme une pyramide dans l'histoire de la littérature sans prédécesseur et sans rival. Et à mesure que nous approfondissons ce livre, nous partageons ce sentiment. Mais pour nous qui croyons à l'inspiration divine des Saintes Écritures, nous faisons l'expérience que le plus beau livre de la Bible est toujours celui qu'on étudie dans le moment présent. C'est si vrai que quand nous étudions ensemble le cantique des cantiques, qu'on m'avait dit être une étude tellement risquée. Comment est-ce que vous osez parler à des jeunes du cantique des cantiques? Eh bien, nous avons fait l'expérience et nous le disions que c'était le plus beau livre de l'Écriture. L'Apocalypse de l'Ancien Testament, la révélation de l'amour de Dieu pour l'âme humaine et de l'amour de l'âme pour son Dieu. Et je me rends bien compte qu'en ces journées, nous ne faisons que survoler à très haute altitude de ces pages et qui sont d'une richesse vraiment infinie. Tout à l'heure, je vous disais que les rabbins juifs disent que chaque texte de l'Ancien Testament, chaque verset, peut avoir 70 sens différents, et j'insiste sur ce fait, différents mais pas contradictoires. Alors, il y a une richesse infinie dans la parole, n'est-ce pas? Si le nombre de nos années, depuis que nous lisons cela dans la prière de Moïse, monte jusqu'à 70 ans, vous voyez, c'est terrible, tout à coup on arrive à ces 70 ans, on est dépassé, on est déjà entré dans la 8e décennie, alors on se dit qu'on n'a plus pour longtemps. Mais voilà, le nombre de nos jours ne nous préoccupe pas. Quand nous avons appris à les compter et à vivre aujourd'hui, toujours comme si c'était le dernier, alors nous vivons pleinement nos jours. Et nous le bénissons de ce qu'il est fidèle tous les jours et que ses compassions se renouvellent tous les matins. C'est quand même merveilleux d'avoir affaire non pas à une idéologie évangélique, mais à une personne qui remplit notre vie et qui nous habite. Et alors, ce qui compte, c'est de servir au conseil de Dieu. Jean-Baptiste pouvait mourir à 30 ans. Il avait servi au conseil de Dieu. Il avait achevé sa course. C'est l'expression même de l'Écriture, comme Jean achevait sa course. Ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir achever notre course. Et c'était ce qui impressionnait l'apôtre Paul, il disait, pourvu que j'achève la course. C'est ce qu'il disait aux anciens d'Éphèse. Il ne disait pas, pourvu que je vive longtemps encore, mais pourvu que j'achève la course avec joie et dans la fidélité. Et au fond, c'est bien ce que Job désirait, et même s'il a voulu mourir à un moment donné, il aurait voulu mourir avant de pécher. Parce qu'il se demandait réellement si l'épreuve continuait, s'il resterait ferme. Il avait été ferme dans les jours des plus grandes épreuves, mais maintenant, quand il était entouré, qu'on essayait de lui expliquer le pourquoi de ces épreuves, eh bien c'est là qu'il allait chuter. Et il avait peur de cette chute. Il avait peur de cette chute. Et alors, je pense aussi à un autre exemple, parce que, vous voyez, je ne vais pas m'égarer, mais quand même pour vous montrer l'unité de la Bible. Voilà un homme qui reçoit d'un prophète l'annonce qu'il va mourir. Alors, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Qui était ce roi? Ézéchias. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il se tourne contre le mur, puis il se met à pleurer, à supplier, Seigneur, je voudrais vivre encore. Et Dieu est compatissant, il est plein de grâce, et il dit à Évaï, retourne, dis-lui que je vais ajouter 15 années à sa vie. Si seulement il n'avait pas demandé ça. Parce que c'est dans les 15 années qui ont été ajoutées à sa vie qu'il a complètement foiré. Jusque-là, c'était le roi qui avait été l'occasion d'un réveil, mais le surplus de jours qu'il a eu, eh bien, n'a pas été très heureux et très à la gloire de Dieu. Lisez la parole et vous apprendrez ça. Alors, ne demandons pas au Seigneur qu'il nous donne de longs jours, mais demandons-lui que tous nos jours puissent être à sa gloire, puissent servir à sa gloire. David, qui est mort à 70 ans, ayant servi au conseil de Dieu, s'est endormi avec ses pères. Quant à Salomon, qui avait si bien commencé à 20 ans et qui a donné les proverbes que nous avons étudiés aussi pendant tout un camp, verset après verset, eh bien ce Salomon, inspiré par Dieu, qui avait bien enseigné que la crainte de Dieu et la marche dans le sentier du Seigneur prolongeaient nos jours, à quel âge est-il mort? Vous le savez, 60 ans. Il n'a pas prolongé ses jours, non. Mais parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit. Il faut prendre Dieu au sérieux, ne vous y trompez pas. Le Seigneur est fidèle à ses promesses, mais aussi à ses menaces. Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est Dieu, et nous avons à nous en souvenir. Alors, pour nous, ce qui compte, c'est donc de recevoir de cette étude quelque chose qui va nous instruire. Nous disons que nous n'étudions pas pour étudier, comme je me souviens d'avoir entendu Karl Barth le dire, il y a de ces gens qui étudient la Bible, qui viennent dans les séminaires de théologie pour en connaître davantage. Or, ce n'est pas cela. Il disait, il faut étudier pour vivre dans ce monde en authentique chrétien. C'est pourquoi j'ai toujours reçu une bénédiction quand j'ai eu la possibilité d'entendre Karl Barth qui a même été un jour à ma table. Et l'homme qui a pu dire à la fin de sa cour, sur son lit de mort, oubliez ma théologie et gardez la parole de Dieu, eh bien, moi je trouve que ça, c'est à la gloire du Seigneur. Parce que tout à coup, quand on est en présence de Dieu, on dit tout ce qu'on a pu dire ou essayer de dire et expliquer, ce n'est rien. Revenez à la parole de Dieu. Et cette parole est capable de vous instruire, de vous enseigner. Elle est utile pour faire de vous des hommes et des femmes de Dieu. Ne pensez pas que c'est un diplôme qui va vous donner une autorisation de prêcher la parole. Ce qui vous autorise à ouvrir la bouche, c'est que cette parole habite en vous avec abondance, comme il l'est dit dans les Colossiens, et que le Saint-Esprit en vous, n'étant pas contristé, devienne réellement votre mémoire. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un encouragement pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Eh bien, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Alors même si nous ne pouvons pas nous arrêter avec beaucoup de temps sur chaque verset, à étudier chaque mot qui sont si riches, dans cet écrit, moi ma confiance c'est pour l'après-camp. J'espère que dans les camps, vous commencez à avoir le goût de la parole de Dieu et que vous réalisez que cette parole ne tue pas, mais qu'elle nous fait vivre et qu'elle est une puissance même qui se manifeste jusque dans nos os et qui nous renouvelle physiquement autant que spirituellement. Nous y croyons à la puissance de la parole dans notre chair mortelle. Et je crois que si vous avez goûté combien elle est bonne, cette parole, vous allez, comme Jérémie, la manger. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées et elles ont fait, non pas de la déprime dans mon cœur, mais la joie et l'allégresse de mon cœur. Il n'y a rien comme la parole de Dieu pour vous sortir de la dépression. J'ai connu un médecin, celui qui a baptisé ma mère il y a bien longtemps, à Vevey, et qui donnait quelquefois à ses patients, comme ordonnance, 8 chapitres à lire. C'était Henri Rossier, celui qui a signé bien des écrits HR, et qui a baptisé ma mère alors qu'elle avait 20 ans. Eh bien oui, la parole est une puissance, une vraie médecine, et elle est à votre disposition. Alors après ce prologue en prose qui nous a déjà bien édifié, nous sommes entrés maintenant dans la partie écrite en vers et qui se prolonge, comme vous avez pu déjà le voir si vous avez feuilleté un peu votre cahier, jusqu'au chapitre 41. Et de nouveau, alors, la fin, l'épilogue est en prose. Donc, nous restons à l'école de Jésus, qui nous enseigne d'une façon progressive. Nous n'irons pas plus loin que ce que le texte nous dit. Mais vous continuerez après à vous instruire. Et je souligne encore ce que Paul disait au sujet de cette étude de l'Écriture à son enfant dans la foi Timothée. Il disait, jusqu'à ce que je vienne, adonne-toi à la lecture. Et dans le camp précédent que nous avons fait pour la famille, nous avons souligné lire comme Jésus lisait. Car Jésus lisait. Te ressemblait Jésus, mais comment lisait-il lui? Eh bien, nous avons nous aussi à lire, à nous nourrir de l'Écriture. Et nos progrès seront évidents à tous. Parce que si nous lisons de la manière dont le Seigneur veut que nous lisions, lire en écoutant, c'est pour ça que je conseille toujours, quand vous êtes seul, lisez à haute voix. Sans déranger personne. Hein. Mais lisez à haute voix, alors, vous voyez ce que dit l'Écriture, vous lisez, et puis vous l'entendez. Alors ça descend mieux dans votre cœur. Alors ce Job que l'Écriture nous présente comme un personnage vraiment historique et non mythique, nous avons eu l'occasion de souligner, nous montre que le Créateur des hommes ne s'est jamais laissé son témoignage parmi les nations, puisque Job n'était pas un juif, et que même au sein du paganisme dans lequel le monde était retombé après le déluge, bien, Dieu avait pourtant ses témoins. Nous croyons vraiment que Job, descendant de Sem, était prédécesseur, a vécu avant Moïse. Et nous aurons l'occasion de dire pourquoi à mesure que nous avancerons. Dieu avait ses témoins dans cette période où la loi même n'avait pas été proclamée. Et ces gens en savaient assez, parce qu'ils avaient reçu un témoignage oral de ce qui s'était passé au commencement. Ils avaient la connaissance de la chute, ils avaient la connaissance de la malédiction de la terre, du sol, à cause du péché d'Adam. Mais c'était un temps où Dieu ne mettait pas le péché en compte, parce qu'il n'y avait pas la loi. Donc il n'y avait pas de transgression directement, mais il y avait la loi naturelle, et transgresser la loi naturelle était suffisant pour que les païens, qui n'avaient pas encore eu la révélation de Dieu, même avant l'appel d'Abraham, eh bien, soient inexcusables, comme le dit le chapitre premier des Romains. Inexcusables de transgresser les lois naturelles. Et les gens qui, même sans connaissance de l'Écriture, ont au moins la connaissance des choses, la nature, ont des yeux pour voir et s'intéressent à la nature et observent déjà les lois naturelles, eh bien, ils se trouvent souvent mieux que les chrétiens. Et des parents qui ont déjà élevé leurs enfants en leur enseignant les lois naturelles, eh bien, ils auront souvent des enfants mieux portants que les parents chrétiens, qui pensent qu'à cause du pardon qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, ils doivent tout passer à leurs enfants, n'est-ce pas? Ce sont des petits rois. Et alors, et oui, il y a des familles qui ne sont pas chrétiennes et qui sont en meilleure santé, où l'on vit mieux, où l'on a des principes, où on a une discipline qu'on n'a plus chez nous, évangélique, où on croit que tout est permis. On n'est plus sous la loi, oui. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Alors attention, parce que, vous savez, nous pourrions avoir des drôles de surprises. Parce que Dieu sait se révéler à ceux qui le recherchent, même qui n'ont pas nos connaissances peut-être bibliques, qui n'ont pas l'assurance du salut en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ peut se révéler d'une manière ou d'une autre, ne veut pas dire que nous ne devons pas parler de Jésus-Christ. Hein. Ne dites pas que j'ai dit cela, hein, parce que c'est faux. Mais que le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Un mulot? Ben là, c'est le paquet. Un mulot. J'ai vu une souris ce matin, moi. Bien sûr, puis un lièvre qui se promène, puis ici dessous, il y a quoi? Il y a les porcs-épics, et c'est une bête nationale, et qui est préservée, vous n'avez pas le droit de tuer un porc-épic, parce que si vous vous trouvez loin de tout et mourant de faim, vous pouvez directement prendre alors une tranche de porc-épic et la manger sans qu'il vous arrive du mal. Alors, ce sont des petites créatures de Dieu, alors soyons reconnaissants, un mulot. C'est pas lui. J'ai vu un mulot. Ils ont aussi leur raison d'être. Surtout que dans Job, vous allez en voir des bêtes, des animaux. Un peu plus loin. Et voyez-vous, l'apôtre Paul était tellement conscient de cela que quand il était devant les Athéniens, il leur disait, un de vous poètes a dit, vous êtes la race de Dieu. Hein? C'est ça qui est vrai. Hein? L'homme est quand même la race de Dieu. Et je me souviens qu'un jour, en rentrant de Saïgon en 1961, dans l'avion, après 20 heures d'avion, le commandant m'a demandé de venir dans la cabine de pilotage et on était juste au-dessus du Mont Blanc, on rentrait et en voyant ces trois hommes qui étaient là, et avec tout l'avion rempli, c'était encore un 707, mais j'ai entendu dans mon cœur, l'homme est la race de Dieu, c'est vrai. Parce qu'il a des possibilités extraordinaires, on se dit, mais s'il était resté dans la communion avec Dieu, mais il y aura un jour cela. C'est pourquoi nous croyons au règne de 1000 ans. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de règne millénaire, oui. Nous y croyons à ce règne, parce que le monde doit voir ce que c'est qu'un gouvernement vraiment humain. Or, jusqu'à présent, tous les gouvernements qui ont passé, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont représentés dans l'Écriture comme des bêtes féroces. Il n'y a pas encore eu un gouvernement vraiment humain. Mais Daniel nous l'annonce. Je vis quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et c'est lui qui va prendre le gouvernement du monde. Et alors, à ce moment-là, les cieux béniront la terre aux cieux répondra. Il y aura des relations entre le ciel et la terre. L'état présent n'est pas l'état normal. Et le Seigneur régnera en justice et il apportera la paix. Eh bien, nous nous réjouissons de ce moment et quand il nous arrive de dire que ton règne vienne, ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement le règne dans nos cœurs, mais c'est de voir toute cette création qui souffre, qui est en travail, la maladie dans les arbres, tout ce que vous voulez. Eh bien, de voir que tout cela sera transformé. Et qu'il y aura une beauté incomparable dans la nature, et que la terre entière donnera son fruit, les blés bruiront jusqu'au sommet des montagnes, de sorte que tous auront leur nourriture, la nourriture, mais déjà maintenant, il y aurait assez de nourriture pour le monde entier, s'il y avait une bonne répartition des richesses. Mais pour cela, bien, il faut des cœurs nouveaux. Or, voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas régner quand il est venu la première fois. Il fallait d'abord qu'il fasse une œuvre qui régénère les cœurs. Et il fallait qu'il passât par la mort. Alors hier, nous avons donc entendu le premier discours d'Éliphaz, l'un des trois amis de Job, qui parlait au nom de ses compagnons aussi, et qui s'adresse à Job après ce long silence dans lequel il s'était plus ou moins conclu, disons qu'au début, parce qu'on n'a pas le droit de douter de l'amitié réelle que ces hommes avaient pour Job. C'était de vrais amis, et il le prouve en faisant ce long voyage, et en venant avec des sentiments vraiment d'amitié vers Job qu'ils avaient connu dans la prospérité et qui, évidemment, est retrouvé dans cet état épouvantable. Alors, ils sont en quelque sorte horrifiés. Ils sont dans la douleur, d'abord pour eux, mais à mesure qu'on réfléchit sur une certaine souffrance et que l'on apprend l'accumulation des épreuves de quelqu'un, on se dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une cause profonde, une cause cachée. C'était des croyants, ces amis de Job. Ils n'étaient pas aussi avancés que Job, mais c'était certainement des croyants. Alors, ne rabaissons pas ces amis en y voyant plus ou moins des ennemis de Job, non. Ils se sont irrités peu à peu en entendant les paroles de Job, mais ils avaient de très belles pensées, de très bonnes pensées. Dans tout ce qu'ils ont dit, il y avait des paroles justes, et même on en trouve dans le Nouveau Testament, même des paroles d'Éliphas sont citées dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les Corinthiens ou dans le 12 des Hébreux. Ce qui montre que même s'ils ont mal parlé de Dieu, ils n'ont pas parlé de Dieu comme il fallait en parler, parce qu'ils ont voulu se faire les avocats de Dieu, et en se mettant à accuser Job, eh bien, Dieu s'est servi quand même de leurs paroles, et où nous voyons l'inspiration de l'Écriture, c'est que Dieu a permis que Paul, par exemple, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cite les paroles de ces hommes, de sorte que nous pouvons recevoir une bénédiction aussi de leurs propres paroles. Mais adressées à Job, c'est ça qui était faux, n'est-ce pas ? Elles étaient vraies, ces paroles, d'une façon générale, mais elles ne s'appliquaient pas au cas de Job, parce qu'ils étaient en train de suspecter Job, qui lui alors s'irritait parce qu'il savait qu'il n'avait pas péché d'une façon grossière. Mais voilà, il ne se connaissait pas encore. Alors il a fallu, au fond, que Dieu emploie ses amis avec leur maladresse pour que Job s'aperçoive du fond de son cœur et qu'il apprenne à se connaître, parce que Dieu avait en vue pour lui de lui donner le double. Mais pour pouvoir lui donner le double, il devait d'abord l'appauvrir. Parce que si Dieu avait immédiatement répondu à Job, après ses épreuves, il a traversé toutes ces grandes épreuves. Les 6 épreuves, il les a surmontées. Et si vous aviez eu, à la fin de ces 6 épreuves, où Satan a été vaincu, il est mis de côté, et Dieu guérit Job, mais Job n'aurait rien appris. Job n'aurait rien appris. Il aurait montré qu'en effet, il était capable de traverser l'épreuve, mais Dieu voulait plus. Alors, il a permis que l'épreuve se prolonge parce qu'il avait un but. Il voulait que Job se rende compte que ce n'est ni notre piété, ni notre moralité, ni notre religion qui peut nous justifier devant Dieu, mais uniquement sa grâce. C'est ce qu'il ne connaissait pas encore. C'était par grâce qu'il manifestait tous ces caractères du premier chapitre dont nous disions qu'il devrait nous caractériser. Les caractères de Job dans le premier chapitre, ça devrait être le caractère du chrétien, un être irréprochable, parce qu'il connaît le Seigneur, parce qu'il a été régénéré. Mais si l'Ancien dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, s'il est dit qu'il est irréprochable, il ne l'est que par grâce, car il a dû apprendre que le péché habitait en lui et que depuis sa conversion, eh bien, s'il ne tombe pas, c'est parce que Dieu le tient debout. Mais si nous étions lâchés un seul instant, en une minute, nous serions capables de détruire tout notre témoignage. C'est vrai ou c'est faux? Que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. Et souvenez-vous de David, qui a fait de très beaux psaumes, et qui dans un moment d'égarement, parce qu'il a suivi un regard qu'il aurait dû condamner, il est tombé bien bas. Alors, Voilà maintenant une des raisons pour laquelle Dieu n'est pas intervenu immédiatement pour Job, parce qu'il veut que l'œuvre qu'il s'est proposé de faire pour son bien s'accomplisse et en lui et aussi chez ses amis, qui ont besoin d'apprendre quelque chose. Alors Dieu va se servir de Job pour enseigner quelque chose à ses amis, qui sont des gens pieux, mais qui n'ont pas compris qu'on ne vit pas avec des dogmes et des traditions, mais que nous devons vivre dans la dépendance de Dieu. Et puis il va employer les amis de Job et leur maladresse pour enseigner Job et lui donner la plus grande des bénédictions. Alors, hier donc, nous avons vu qu'après que Job ait éclaté à la fin de ce silence de 7 jours et de 7 nuits, et qu'il a maudit son jour, c'est là qu'est sa chute en quelque sorte, parce que il n'a pas maudit Dieu jusque-là, il n'a pas maudit Dieu, il a béni Dieu dans ses épreuves. Mais maintenant, dans cette 7e épreuve qui est ce silence de ses amis qui le contemplent, qui le voient, qui le regardent et qui n'ont pas une parole pour lui quand même, à un moment donné, même si on peut justifier le début de leur silence, mais comment ne pas trouver une parole? Et j'ai cité ce verset d'Ésaïe 40, il réveille, d'Ésaïe 50, il réveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et puis, dans les Proverbes, au chapitre 24, où il est parlé justement que si la parole habite en nous, eh bien, elle se trouve disposée sur nos lèvres. C'est pas nous qui cherchons un texte pour le donner, mais l'Esprit de Dieu, agissant en nous, met une parole sur nos lèvres pour que nous sachions répondre à ceux qui attendent de nous cette parole de grâce assaisonnée de sel. L'apôtre Paul priait et demandait du sein de la prison que les églises prient pour lui pour qu'il parle du Seigneur comme il doit en parler. Or nous sommes toujours prêts à jaser, comme vous le dites quelquefois, du Seigneur. Moi, c'était un des mots que j'ai entendu une fois en 1960 dans une première visite au Canada, après une conférence que j'avais faite, quelqu'un chez qui je logeais m'a dit: venez maintenant, on va jaser du Seigneur. J'étais un peu heurté. On va jaser du Seigneur. C'est comme pour la première fois quand j'ai entendu un pasteur qui me disait: je ne peux pas vous conduire ce soir parce que mon cœur ne va pas très bien, mais vous irez avec ma fille, vous n'avez rien à craindre, elle chauffe depuis 12 ans. Alors, je l'ai regardé sérieusement, surtout que j'étais veuf en ce temps-là. N'est-ce pas, mais il faut s'adapter, vous comprenez. Alors, pour finir, mais je suis lent à comprendre. Alors j'ai compris que chauffer, c'était chauffer son char. Non, mais c'est très joli. Vous voyez, on a toujours besoin d'apprendre. Oui. Alors je pense que malgré toute la faiblesse de l'instrument que Dieu emploie aujourd'hui, eh bien, vous avez saisi hier soir quelle fut l'argumentation de ce sage Eliphaz et sa manière d'essayer d'expliquer à Job sa situation. Voyez-vous, c'est quand on commence de vouloir expliquer à quelqu'un le pourquoi de son épreuve qu'il faut faire très attention, parce que d'abord, nous ne connaissons qu'en partie. Il y a une foule de choses que nous ignorons, ou même quand on nous parle dans un entretien, on ne nous dit pas toujours la vérité. Une parole qui m'a souvent aidé, c'est celle-là: que Dieu soit vrai et tout homme menteur. on ne nous dit pas tout. On veut nous faire dire quelque chose, hein, pour les encourager dans une certaine ligne. Alors, ils nous consultent pour pouvoir dire, oui, monsieur Untel nous a dit cela. Mais au fond, c'est pour les confirmer dans ce qu'ils voudraient déjà voir se faire. Et c'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents avant de donner un conseil. Cherchez plutôt à orienter la personne pour qu'elle comprenne elle-même ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas ? Et qu'elle, elle prenne la décision. Parce que c'est cela, parce qu'après, on va demander à un autre, hein, puis c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Alors les gens sont complètement brouillés. Il nous faut aimer assez les âmes pour ne pas les dominer, mais pour essayer de les éclairer et qu'elles voient elles-mêmes, à la lumière de la parole, ce qu'elles ont à faire. Et n'essayons surtout pas de les éblouir par nos connaissances. Parce que je l'ai dit souvent, quand vous croisez quelqu'un en voiture, la nuit, vous devez baisser vos phares. Eh bien, quand vous croisez une âme, baissez vos phares. N'essayez pas de l'éblouir par vos connaissances. Et ne prétendez pas que vous, vous avez tout vu. J'ai vu, c'est ce que nous avons lu hier, hein, et puis mon expérience. Mais votre expérience, elle est peut-être valable pour vous, mais elle n'est peut-être pas du tout valable pour la personne à qui vous parlez. Il y a peut-être des ressemblances. Mais ma femme qui est médecin sait très bien que le terrain de ces malades peut être différent. Ils ont la même maladie, mais donner le même remède pour la même maladie, ce n'est peut-être pas cela qu'il faut, parce que les réactions seront différentes. C'est pourquoi chaque cas doit être vu pour lui-même. Je veux croire que vous comprenez cela et que la parole de Dieu vous éclaire. Quand Job voulait lui-même comprendre le pourquoi de ces terribles épreuves, eh bien, il ne faisait qu'obscurcir le conseil de Dieu. Il faut se soumettre sans comprendre. Ce n'est pas nécessaire que nous comprenions tout. Un enfant, il fait confiance à son père. Le père ne lui dit pas le pourquoi de toutes ses décisions, mais l'enfant qui sait que son père l'aime, fait confiance à son père, il comprendra plus tard. Mais n'essayons pas de vouloir nous-mêmes comprendre, ou n'essayons pas d'expliquer aux autres, de faire les instituteurs et de traiter Job au fond comme un enfant, comme un écolier auquel il faut rappeler des grandes leçons. Job n'avait qu'à faire, que faire d'entendre ce discours, parce que ces choses-là, Job les savait. Et ça ne faisait qu'alourdir sa peine. Alors ce que nous verrons ce matin, mais la réponse du patriarche va nous convaincre qu'il n'a nullement été convaincu ou éclairé sur son état. Mais pourtant, il y a une parole qui m'a frappé et qui nous montre qu'Éliphaz a eu une parole prophétique. Malgré sa pédanterie, il a sorti une parole prophétique. Laquelle ? Vous y avez pensé ? En si détresse. Hein ? Il te délivrera. Et dans cette, le mal ne t'atteindra pas. Vous voyez, moi, avec évidemment mes origines, je connais, je cite la version Darby. J'ai eu un moment, justement, l'intention de vous faire, au lieu de prendre la seconde révisée, de vous faire comme il y a 2 ans, un cahier avec la traduction Darby, parce qu'elle est vraiment plus littérale. Mais comme elle n'est pas très répandue dans nos milieux, j'ai pris la seconde révisée, maintenant que vraiment 1910, des grandes corrections ont été faites, hein, parce qu'il y avait une erreur que nous en parlions avec Jules Marcel Nicole, qui était un des présidents de ceux qui ont révisé le texte de l'Ancien Testament. Dans le chapitre 13 de Job, Il était dit dans la version 1910, Job s'écriait, « Voici, il me tuera, je n'ai plus rien à espérer. » C'est quand même assez grossier comme erreur. Alors que la vraie version dit, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Vous voyez quand même la valeur d'une traduction. Mais évidemment, Darby était anglais, et alors on dira qu'il y a des anglicismes, etc. Mais vous pouvez être certain, et ça dans les universités sérieuses, et en tout cas quand je suis à Jérusalem, on me demande toujours de prendre la version Darby, parce que celui qui me traduit en hébreu s'y retrouve immédiatement. C'est très littéral. J'ai aussi Chouraki, bien sûr, mais on ne peut pas prendre Chouraki pour qui est l'auteur juif actuel pour répondre à la parole, parce que les mots sont trop crus et c'est difficile. Mais pour l'étude biblique, c'est intéressant de les prendre aussi. Alors, quelques personnes qui désireraient la Bible Darby, nous pouvons vous la fournir à un prix assez modique, si vous voulez vraiment étudier. Mais nous avons pris second parce que nous avons cru que c'était peut-être plus dans vos cordes. En six détresse. Quelles sont ces six détresses? Pendant 7 jours et 7 nuits, ils ont eu le temps de compter les détresses de Job. Il y en avait combien? Il y en avait 6. N'est-ce pas? Il y en a eu 6. Vous les connaissez? Il a perdu ses biens en 3 catastrophes. Alors, ça fait 3 déjà. Hein? Relisez le premier chapitre. Puis ensuite, il a perdu ses enfants. Ça fait la 4e. Et puis, sa santé, ça fait la 5e. Et puis la 6e détresse, c'est sa femme. Parce que Satan lui a laissé sa femme. Je vous choque. Je m'en excuse, mes amis. J'ai un très grand respect pour la femme. Mais Satan savait que sa femme pouvait être découragée. C'est pourquoi, dans le plan de Dieu, qu'est-ce que la femme doit être pour l'homme? Une aide qui lui corresponde. Et si vous vous mariez, mettez-vous bien ça dans le cœur, je l'ai souligné hier, c'est pour les bons et les mauvais jours. Alors attention, est-ce que votre femme sera aussi pour les mauvais jours? N'épousez pas une femme seulement pour les mauvais jours, épousez-la aussi pour les bons jours, mais qu'elle puisse être là dans les mauvais jours. Deux valent mieux qu'un. Si l'on tombe, l'autre lèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, et qui n'a pas de second pour le relever. C'est dans l'Ecclésiaste, un livre aussi que nous avons étudié ensemble ici. Eh bien, que le Seigneur vous montre l'importance d'avoir une femme qui soit une aide pour vous. Nous sommes complémentaires. Elle n'est pas du tout inférieure à l'homme. Mais comme elle a une grande influence, en bien ou en mal, mais il y a des femmes qui ont une influence merveilleuse. Souvenez-vous d'Abigaïl qui a empêché un roi de faire un crime. Et David a remercié Abigaïl. Il dit qu'elle est envoyée de Dieu. Souvenez-vous de Jaël, une femme qui a délivré Israël d'un ennemi épouvantable, et nous pourrions en citer bien d'autres, de Déborah sous son palmier. Et souvenez-vous de ce que Paul dit dans le chapitre 16 des Romains. Je n'ai jamais compris qu'on puisse avancer que Paul était contre la femme. Il ne faut vraiment pas avoir lu la Bible, et puis il ne faut vraiment pas connaître le cœur de Paul qui a été ravi au 7e ciel, qui a entendu des choses ineffables, pour dire que Job était contre la femme, ou qu'il était misogyne. Non, mes amis, quand vous voyez comme il cite les femmes, comme il montre ce qu'elles ont été pour lui. Il dit, cette femme, Marie, qui a été ma mère. Voilà un homme qui reconnaît et qui veut la paix entre les femmes qui servent le Seigneur. Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle, dit un psaume. Et quand Paul apprend qu'Évodie et Saint-Tiche, des sœurs de l'assemblée de la ville de Philippe, ne s'entendent pas, il dit, je supplie Évodie. Voilà ce que nous apprenons quand nous lisons la Bible. Mais on croit qu'on connaît la Bible, mais ce n'est pas vrai. On en sait si peu de la Bible, alors qu'on sait tant de choses du monde, des acteurs, des héros de ce siècle présent. Retournez à l'Écriture. Alors, il a ici des traits. Il lui dit, dans sept, le mal ne t'atteindra pas. Quelle était la septième épreuve? C'était ses amis. C'était ce contact avec ses amis qu'il avait observé. Eh bien, Eliphaz a été dépassé. Puis il dit, dans sept, le mal ne t'atteindra pas. Eh bien, la septième épreuve qui était justement la présence de ses amis, qui aurait pu tourner justement à la catastrophe, parce que c'est ça qu'il a fait, et qu'il a fait sortir de ses gonds, se sentir jugé, parce que dans ce silence, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Comment, quelle idée est-ce qu'ils se font de ma détresse, de mon épreuve? Et alors, il n'en peut plus, au moins s'il lui avait dit une parole de grâce. Combien sont bonnes les paroles et qui nous sont données quand elles sont pleines de grâce. Quoique assaisonnées de sel, nous avons à dire la vérité aux âmes, mais dans l'amour. Donc je souligne cela parce que vous pourriez vous arrêter sur chaque verset. Alors avant de parcourir les deux chapitres, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser sur ces chapitres que nous avons étudiés hier soir? Il y a notre ami qui nous... Oui. Oui. C'est dans le chapitre 12 des Hébreux. N'est-ce pas? Tu lis le chapitre 11 d'abord et tu vois tous ces héros qui sont morts, mais dans la foi. Ils ont eu des fautes, mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont cité aucune de leurs fautes, seulement des choses bonnes qu'ils ont accomplies. Hein. Comme Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités, et il relève seulement leur foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et puis, quand tu arrives au chapitre 12, il est dit, ayons une si grande nuée de témoins qui nous entourent. Alors ne perdons pas courage, puisque eux ont pu tenir. Pourquoi est-ce que nous ne tiendrions pas? Le Seigneur est le même. C'était le Seigneur avec lequel ils étaient dans l'intimité, et puis nous aussi, si nous avons la même intimité, le Seigneur sera le même pour nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-ce pas? Merci. Maintenant, j'ai pensé à notre ami qui a posé la question sur le feu de Dieu. Eh bien, évidemment, dans la version en français courant, pour éviter justement certaines confusions, on a mis simplement la foudre. La foudre est tombée du ciel. Mais quand il est dit le feu de Dieu, donc c'est que Dieu est responsable de tout dans la nature, mais il permet des fois à ses anges et aussi à Satan d'accomplir certaines choses parce qu'il veut nous éprouver. Mais c'est toujours Dieu qui est derrière, qui est au-dessus de tout. Alors, quand vous parlez de l'enfer, par exemple, faut pas croire que c'est le feu de Satan. C'est pas le feu de Satan. Il y en a qui croient que le diable sera le roi de l'enfer. Alors, Dieu est le roi du bonheur, du bien, et ils sont dualistes, et puis ils font de Satan un dieu. Or, Satan n'est pas un dieu, il n'est qu'une créature, et il est dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, de sorte que s'il y a des hommes qui vont en enfer, c'est qu'ils l'auront voulu. C'était pas pour eux l'enfer. C'était la gloire éternelle. Mais si tu veux suivre Satan, eh bien tu auras Satan en partage. Il sera là avec les autres. Et qu'est-ce que c'est que ce feu? Eh bien, ce n'est pas, je l'ai dit quelquefois, un feu qui vous rôtit et qui vous brûle, comme si Dieu se plaisait à griller les corps, même ressuscités. Ce n'est pas ça. C'est cette flamme d'amour qui ne peut pas être satisfaite. C'est, si j'ose dire ainsi, brûler d'amour sans pouvoir réaliser l'union. Voilà l'enfer. C'est pas ces images épouvantables que l'on a données du diable cornu, pied fourchu, et des démons avec des pics qui vous envoient ça dans les fesses, etc., et qui vous met dans le chaudron, etc. Mais pas toute cette imagerie qui permet évidemment aux incrédules de se moquer de ces gens qui croient à l'enfer. Mais l'enfer, c'est le lieu de l'éternelle séparation d'avec Dieu et des ténèbres, alors qu'il voit les croyants dans la lumière et dans la joie, dans l'union. Alors je vous dis, il vaut mieux se marier que de brûler, il vaut mieux accepter Jésus sur la terre, l'union avec le Seigneur sur la terre, que dans l'éternité où tout le monde sera croyant, de brûler d'amour sans pouvoir réaliser cette union. C'est un tourment, mais l'enfer entier sera au pied du Seigneur. Tout genou se ploiera. Ce ne sont pas mes théories, des êtres célestes, des êtres terrestres et des êtres infernaux. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on nous dit, est-ce que vous croyez que Satan aura plus d'âme que Dieu? Mais Satan n'en aura aucune. Les âmes qui seront avec Satan sont celles qui n'auront pas voulu de Jésus et qui auront été effacées du livre de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu parles assez fort pour que tout le monde entende. Oui, mais tu comprends, là, dans ces discours, il n'y a pas toujours une suite très structurée. C'est les sentiments qui parlent. Alors on va d'un argument à l'autre, et il montre, mais crie donc. Il a parlé du lion, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? Au fond, tu ne vas pas t'en sortir avec ta lamentation que tu viens de faire. Personne, au fond, te répondra. Et puis, il lui montre que, au fond, le chagrin, c'est assez vrai. Il fait mourir le sceau si tu restes sur ton chagrin. Ton chagrin, tu devrais le remettre à Dieu, le déposer. Et c'est être imbécile de garder son chagrin. Une des premières brochures que j'ai écrites après avoir été 7 ans aumônier parmi les tuberculeux dans une ville de Suisse, pendant la guerre, c'est révolté, résigné, vainqueur. Et elle a amené beaucoup d'âme au Seigneur parce que je faisais cette expérience quand j'entrais dans une chambre de malade, qui était malade peut-être à la mort ou pour de longues années. C'était la tuberculose avant qu'on ait les médicaments qui peuvent vaincre. Eh bien, je trouvais des révoltés. Mais qu'est-ce que je voyais dans leur cœur? Ils étaient révoltés, ils ne croyaient pas en Dieu. Mais ils étaient quand même révoltés contre qui? C'était quand même contre Dieu. Mais n'y croyant pas, ils ne le disaient pas à Dieu. Ils ne sortaient pas leur révolte. Alors mon conseil, c'était, mais sors-là, du moment que tu le penses. Dieu le voit quand même, même si tu n'y crois pas. Dis-le-lui, au fond, s'il y a un responsable, eh bien, dis à ce responsable ce qui est dans ton cœur. Et j'ai toujours vu qu'une fois qu'il avait pu être honnête et lui crier en face ce qu'il avait dans son cœur, il était apaisé et guéri. Et j'ai vu des guérisons une fois que tu as dit ta révolte. Mais sans ça, eh bien, le chagrin te tue. Et puis, quand on est révolté, même si on dit qu'on ne croit pas en Dieu, mais enfin, on montre le poing contre un ciel vide. Nous sommes des imbéciles. Ça n'existe pas. Puis, il y a quand même un responsable. Alors, qui est-il? Alors, appelons les choses par leur nom. Je ne peux pas adresser mon poing contre le néant. Alors, ne soyons pas des imbéciles, mais apprenons à nous sortir de là, parce que aussi la jalousie, si je cultive la jalousie en disant, ben celui-là il n'est pas malade, moi je suis malade, celui-là il a encore tout fait bien, moi j'ai tout perdu, et on commence d'être jaloux. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Apporte ta jalousie, dis-le-lui Seigneur, appelons nos péchés, péchés, et c'est comme ça qu'on en est libéré. Il y a encore une autre question? Dans cela, on va peut-être changer de position. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou qu'on s'arrête? On peut peut-être chanter un cantique pour changer de position. Et maintenant, rapidement, ce chapitre, la réponse de Job. Et nous nous rendons vite compte que Job n'a guère écouté ce qu'Eliphaz lui disait. Ce discours a vraiment été sans fruit. Et surtout, il n'a pas consolé Job. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, il était plein d'insinuations. Alors Job répond. Oh, s'il était possible de peser ce qui m'irrite. Oh, si mon chagrin était bien pesé. Ils n'ont pas vu que c'était un chagrin pour lui, que c'était une douleur. Et ce chagrin devenait vraiment de l'irritation. Si l'on mettait toutes mes calamités ensemble dans une balance, au fond, il a l'impression que ses amis n'ont pas mesuré le poids de ces épreuves. Et vous savez, si vous vous mettez dans la peau de Job et que vous perdez 10 de vos enfants, ce n'est pas drôle. Perdre 10 enfants, ce n'est pas drôle. Et nous ne voulons pas non plus juger la femme de Job. Avoir porté 10 enfants et puis les voir en une seule journée anéantis, vous pouvez un peu comprendre qu'elle ait pu dire à Job quand elle a vu son mari dans un état pareil, maudit Dieu. Elle a été dépassée. Et Job a eu la délicatesse de lui dire, non pas tu es folle, mais tu parles comme une folle. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime dans la parole et qui me nourrit. Tu parles comme parlerait une insensée. Job, au fond, comprend que sa femme est dépassée. Et il ne l'a pas traitée d'insensée. Il lui dit, tu parles comme une insensée, nous avons reçu des biens et nous ne recevions pas des mots. Il l'a même exhorté avec amour. Il a encore eu ce calme pour sa femme. mais il a l'impression que ses amis n'ont pas pesé ensemble toute sa douleur. Parce que lui, quand il voit tout ce qu'il a connu, et il s'en ressent parce que ça dure, elle serait maintenant plus pesante que le sable de la mer. Évidemment, c'est une hyperbole, mais quand même, il parle en images, et c'est de la poésie. Voilà pourquoi mes paroles sont inconsidérées ou outrées. C'est une petite excuse. Il reconnaît qu'il est allé loin dans le chapitre 3, quand il a maudit son jour, quand il a manifesté qu'il aurait préféré ne pas être né, et qu'il ne comprend pas pourquoi il existe, et qu'il souhaite, quoi ? La mort. Bien oui, mais nous avons tous de ces moments-là où nous souhaitons la mort. Il n'y en a pas ici qui ont souhaité la mort ? Un prophète auquel Dieu réservait d'être enlevé au ciel dans un chariot de feu, quelque temps avant, il voulait mourir. En étant conscient qu'il n'était pas meilleur que ses pères, il a demandé la mort. Jonas aussi a demandé la mort. Quelquefois, nous avons peut-être aussi désiré la mort. Moi, personnellement, il y a 41 ans, au bord de la mer du Nord, j'étais dans une terrible épreuve et j'étais seul. Je me suis dit, mais si tu te laissais couler, ce serait fini. Et oui, on a des pensées comme ça. Le diable nous assaille. Des matins, là, pendant ces 3 mois que j'ai passé en Angleterre, eh bien, il me semblait le matin qu'il y avait des mains qui me serraient la gorge. J'étais à Eastbourne, au bord de la mer du Nord. Et c'était comme si j'allais étouffer. Il y a des moments terribles et vous êtes dans une solitude affreuse. Tous vos amis vous ont quitté, vous jugent, on vous écrit même des lettres anonymes, etc. Puis vous savez très bien qu'on n'avait pas péché dans ce sens-là. Puis voilà, c'est l'incompréhension la plus totale de ceux qu'on chérit, qu'on aime et qu'on aime encore. Bien oui, il faut passer par ces épreuves pour comprendre vraiment ce livre de Job. Mais ce qui nous rassure, c'est que celui qui nous apprend, puisqu'on est à l'école de Jésus, comment a-t-il appris l'obéissance ? Lui, en tant qu'homme, par la souffrance. Et nous voudrions toujours passer par un autre chemin que lui. Alors, si Jésus, à qui nous voudrions ressembler, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, vous devez mettre la souffrance dans votre programme, si vous êtes disciple du Seigneur. Et Jésus ne nous a pas trompés, ne nous a pas dit que la vie serait facile. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, nous ne sommes pas trompés par Jésus. Et il n'a pas fait une propagande pour qu'on le suive. Hein. Ceux qui venaient lui dire, Seigneur, nous voulons te suivre, mais laisse-nous d'abord. Eh bien, vous savez l'enseignement qu'il leur a donné. C'est pas laisse-nous d'abord. C'est être tout entier pour lui, et être prêt à tout souffrir. Puis il dit, tu veux me suivre, mais les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des retraites, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête, ça ne sera pas facile. On vous dit, oui, mais il faut leur présenter un évangile qui les attire. L'évangile qui les attire. Il n'y a que Dieu qui peut attirer une âme à Jésus. Jésus en était bien conscient quand il disait « Personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. » Il ne s'attribuait aucune conversion. C'était l'attrait de Dieu, l'attrait du Père. Puis une fois que le Père nous a attirés à Jésus, Jésus nous sauve et il nous redonne au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Fils que par l'attrait du Père. Et puis nul ne vient au Père que par lui. Qui est le Sauveur, le Rédempteur. Alors, il reconnaît, Job, que ses paroles ont été outrées ou inconsidérées. Car il dit, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Il se rend bien compte que c'est Dieu qui les trouve. Mais il voit cela comme des flèches. Ça fait mal. Hein, ça fait un peu Saint-Sébastien. Les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu seront en bataille contre moi. Et il sait qu'il a affaire avec Dieu, que quand même, malgré tout, le Dieu qu'il aime est derrière tout cela, ben alors il ne peut pas comprendre, parce que je dis, justement, c'est un malade d'amour.
C'est un malade d'amour.
Et alors il ne peut pas comprendre.
Et alors il ne peut pas comprendre.
Et puis il nous donne des exemples. L'âne sauvage va-t-il braire après l'herbe tendre? S'il a de l'herbe tendre, il ne braie pas. Vous comprenez qu'un âne braie parce qu'il n'a pas d'herbe. Alors ben, vous ne comprenez pas que moi je n'en peux plus. Mais vous n'avez pas mesuré ma douleur. Vous voyez l'âne et le bœuf, vous trouvez encore cela dans Ésaïe 1. L'âne connaît son possesseur. Et le bœuf, la crèche de son maître. Ils sont toujours souvent employés, l'âne et le bœuf. Eh bien, ici, l'âne sauvage va-t-il braire auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Si le bœuf a son fourrage, vous ne l'entendrez pas mugir. Et puis, j'aime beaucoup ça, peut-on manger ce qui est fade, sans sel? Darby a traduit verset 6, et c'est la traduction littérale. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? D'un goûter, vous avez des œufs. Au camp Mahanaïm, vous avez souvent des œufs. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? On est étonné de tout ce que la Bible parle et des exemples qui nous sont donnés. Vous savez qu'il est parlé de pâtisserie dans la Bible? Vous allez chercher certains. Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Oui, il l'a dit ça aussi. Ce que je refusais de toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Parce qu'il est dans la pauvreté la plus grande. Puisse ma demande s'accomplir. Quelle demande? Mourir! Comprends? Voilà. Vous voyez comme progressivement on arrive à relier ces passages. Hein? Puisse ma demande. Mais si tu lis simplement ça, puisse ma demande s'accomplir, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a demandé? Mais si tu as lu avant, c'est pourquoi il ne faut jamais isoler un texte de son contexte, parce qu'on ne comprend pas. Et un verset qu'on ne comprend pas, bien, on passe, puis tout à coup, un autre verset va l'éclairer. Ne vous laissez pas arrêter. Et vous reviendrez en arrière après. Puisse ma demande s'accomplir. Et que Dieu réalise mon espoir. Mais est-ce que mourir, c'est vraiment une espérance? Non. La mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne. C'est pas la mort que j'attends, c'est le Seigneur. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Et vous voyez qu'il est quand même soumis, mais il dit, ben, va jusqu'au bout. J'en peux plus. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève, euthanasie. Moderne. Oui, il y a déjà eu ces pensées-là. Être achevé quand on souffre trop. Vous savez, il y a tout dans la vie. Et c'est Dieu qui est à l'origine de tout. C'est lui qui a fait la première anesthésie. Vous savez bien l'inventeur de l'anesthésie. Qui est-il? Il a fait endormir Adam, pour faire la première opération. Et puis l'échographie, il y a longtemps que ça existe. Rebecca allait consulter Dieu. Puis l'échographie montrait qu'il y avait deux enfants. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seulement, on ne va plus à Dieu. On n'a plus cette intimité. J'aurai encore cette consolation. Au fond, la mort, pour certains, devient une consolation. Je sauterai de joie malgré ma douleur inexorable. Pour quelle raison? C'est parce qu'il n'aurait pas renié les paroles du Saint. Voilà, au fond, il désire mourir parce qu'il a peur de renier les paroles du Saint. Alors, il voudrait mieux mourir que de renier les paroles du Saint. Vous voyez quand même quelle fidélité. Mais, alors, il est humain, il est tellement humain. Quelle est ma force pour que j'attends? Quelle est ma fin pour que je prolonge ma vie? Est-ce que ça doit durer encore longtemps? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle de bronze ou d'airain? Ne suis-je pas sans secours? Toute ressource n'est-elle pas bannie pour loin de moi? Au fond, il est incurable. il est touché par une maladie incurable. On a pensé que c'était la lèpre noire. Puis alors, après avoir parlé de cela et montré à ses amis au fond qu'ils ne le comprennent pas, ils leur disent qu'ils pouvaient attendre d'eux. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de ses amis. Et il a senti, oui, ils sont venus me voir, mais maintenant qu'ils m'ont observé, ils doutent de moi. Et puis, vous savez bien que Eliphaz a commencé par lui dire, mais enfin, comment, toi qui encourageais les autres, et puis maintenant que l'épreuve te visite, eh bien, tu doutes, tu perds courage. C'est pour l'enfoncer encore. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, même si j'avais abandonné la crainte du Tout-Puissant, il faudrait que vous pensiez à moi. Il y a une autre version qui dit « À celui qui est défaillant est dû la miséricorde de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. » C'est cela la vraie traduction, et là vous l'avez dans Darby. À celui qui est dans l'affliction est due la miséricorde de la part de son ami. Vous devez être miséricordieux. Pour quelle raison? Parce que Dieu a été miséricordieux à votre égard. Vous devez pardonner parce que Dieu vous a pardonné. Mes frères m'ont trahi comme un torrent. Et alors là, vous voyez, il a cette image que l'on connaît très bien dans les ouais, dans le désert. Mes frères m'ont trahi. Mon trahi comme un torrent. Vous savez, le torrent, là, quand il est plein de neige, bien, il coule avec abondance. Mais tout à coup, eh bien, quand l'été vient, les lits du torrent disparaissent. Ils ont des eaux troubles à cause de la glace. Ou bien alors, justement, l'eau du torrent devient de la glace. La neige s'y cache, mais autant de la chaleur, ils tarissent. On pourrait s'arrêter longuement sur tout ça. Au feu du soleil, il se dessèche sur place. Et alors les caravanes qui voient, qui pensent voir un oued, qui voient le lit du torrent desséché, ils croient que s'ils suivent ce lit desséché, on va arriver à l'eau. Et ils suivent ce chemin, et puis ils s'enfoncent dans le désert et ils périssent, parce qu'il n'y a pas à l'eau. Mais ils ont cru. Alors, des amis qui sont comme cela, on attendait quelque chose d'eux, on attendait un peu d'eau, il avait soif d'une consolation, et puis, et on l'a conduit où? Nulle part. Les caravanes de Théma les fixent du regard, les convois de Saba, ils comptent, donc ils pensent qu'ils vont trouver de l'eau, et ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confus. Quand ils arrivent, et Job était dans cet état de confusion, il avait peut-être espéré une consolation de ses amis. C'est ce que vous êtes maintenant. Alors qu'est-ce que nous sommes, nous? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Quand nous allons consoler quelqu'un pour consoler quelqu'un, qu'est-ce que nous avons été pour cette âme? Qu'est-ce que nous sommes pour ceux qui souffrent? Est-ce que nous sommes un torrent desséché? Oh, ça faisait beaucoup de bruit. Nos paroles. Vous voyez ma terreur et vous avez de la crainte. Hein? Et il a discerné lui aussi. Mais est-ce que je vous ai dit, donnez-moi quelque chose? Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Je vous ai rien demandé. Est-ce que je vous ai dit, faites-moi échapper à la main de l'adversaire. Libérez-moi de la main des violents. Je ne vous ai rien demandé. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je me suis égaré. Parce que il y a eu des sous-entendus pour montrer à Job qu'il s'est égaré et que, au fond, il est dans l'épreuve à cause de péchés cachés peut-être. Que les discours des hommes droits sont persuasifs. Mais que prouvent vos reproches? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez pour dire qu'il y a certainement en moi quelque chose qui ne va pas? Pensez-vous faire des reproches à mes propos et lancer au vent les discours d'un désespéré? J'aime mieux la traduction d'Arby qui est plus littérale, là aussi, non, verset 26, et j'ai souvent eu l'occasion de dire à certaines personnes, Les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Quand vous entendez quelqu'un qui est désespéré et qui dit une parole qui dépasse, dites-lui après, parce que la personne le regrette, hein, mais elle se culpabilise. J'ai vu une vieille dame qui pleurait à 86 ans sur son lit parce qu'elle avait douté de Dieu. Et qui me disait, mais est-ce que vous croyez, Gaston, que le Seigneur peut me pardonner? Alors j'ai dit, mais ce que vous avez dit, vous l'avez dit dans la détresse, dans le désespoir. Eh bien voilà ce que dit la parole. Les paroles de désespéré ne sont faites que pour le vent. Dieu ne s'est pas arrêté. C'est cela qui libère, c'est citer la parole. Et alors j'ai vu son visage s'épanouir. Il y a un mois, j'étais à Cannes et je visitais une vieille sœur qui a 86 ans, fait deux enfants. Sont des Français, ont été tués. C'était dans tous les journaux. Son fils et sa fille qui étaient dans nos camps autrefois en France, eh bien, ils ont été tués dans une avalanche un dimanche. Ils ont cinq enfants. Et le mari, donc le père et la mère ont été engloutis dans l'avalanche un dimanche. Jour anniversaire de sa mère. Alors je voyais sa vieille mère, qui est une chrétienne vivante. Ils ont été longtemps à Madagascar. Son mari était juge de paix à Madagascar. C'était un de mes bons amis. Et puis elle me disait, mais Gaston, c'est épouvantable. Il y a des moments où j'ai eu de la révolte. Je ne lis même plus ma Bible. Et puis tout le monde croit que je suis une bonne chrétienne. Et alors vous voyez, les jeunes filles viennent me voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'était quelque chose de terrible. Elle était par terre, disait, mais je n'ose pas m'ouvrir, je peux m'ouvrir à vous parce que je vous connais et je sais que vous allez souffrir, mais je ne peux pas dire ça aux autres parce qu'ils seraient scandalisés. Puis après, elle se culpabilisait. Elle disait, mais j'ai peut-être jamais été sauvée. Tu voyais les doutes qui viennent. Alors, c'est là qu'il faut pouvoir leur apporter, avec l'autorité du Saint-Esprit, la parole qui libère, non pas mes bonnes paroles, mes bons sentiments, mais lui montrer dans l'autorité du Saint-Esprit que le Seigneur l'a compris. Il sait que notre force n'est pas la force des pierres, il sait que nous sommes que poussière et il nous restaure. Alors, c'est cela. Nous nourrissons de la parole pour pouvoir la donner à d'autres, non pas pour meubler son esprit, pour avoir un grand savoir. Les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Hein, c'est le verset 26. Pensez-vous faire des reproches à mes propos et lancer au vent les discours d'un désespéré? Ou alors, c'est justement ce que j'ai dit pour vous, ça compte pas. Ça ne vous arrête pas. Tandis que ce que j'ai dit, c'était quand même dans mon cœur. Vous jetteriez le sort même sur un orphelin. Vous voyez, moi j'ai peur de cette dureté chrétienne. Il y a les gens qui sont durs, et je l'ai dit à plusieurs serviteurs de Dieu. Quand je vois un serviteur de Dieu dur, ça me fait peur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Et la dureté n'a jamais été le caractère du Christ. Il était doux et humble de cœur. Ne détruisez jamais, je le répète, le caractère du Christ en vous, la douceur et l'humilité. Mais dès que vous devenez dur, vous n'êtes pas le reflet du Christ. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas dire la vérité. Jésus a eu des paroles de feu et d'acier pour l'hypocrisie chrétienne, pour l'hypocrisie des gens religieux. Mais pour les gens même qui vivaient dans le péché, il a eu des paroles de grâce. Les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Ils étaient accueillis et non pas jugés. Vous jetteriez le sort même sur un orphelin et vous donneriez en échange votre ami. Ou vous creusez une fosse pour votre ami. Et maintenant, veuillez-vous tourner vers moi? Vous mentirais-je en face? Revenez, je vous en prie. Ne soyez pas injuste. Revenez, ma justice existe encore. Ils ont essayé de lui faire croire qu'il n'était pas juste. Et vous le savez comment Eliphaz s'y est prise. Elle dit, mais même les anges, n'est-ce pas? Et Dieu voit même dans les anges des fautes. Alors comment, toi qui n'es qu'un homme, N'en aurais-tu pas commis ? Il essaye de le convaincre. Et puis, ils lui ont donné le plan du salut. Il lui a donné le plan du salut. Voilà ce que tu dois faire. C'est très simple, Job. T'as qu'à t'humilier, repense-toi. Hein ? Confesse ton péché. Et puis tu seras béni. Et puis après, tu auras un prolongement de jours. Et tu mourras dans une bonne vieillesse. Plan du salut. J'ai le plan du salut. Je peux aller avec le plan du salut. Puis je règle l'affaire d'une âme. Pas du tout. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas les calamités? Alors, voyons que, au fond, ça ne sert à rien de discuter avec ses amis. Il commence de nouveau un monologue et il parle de ce qu'il pense, mais il va s'adresser à Dieu. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat? Et ses jours, ceux d'un salarié? Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié attend sa rémunération, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, ainsi j'ai pour héritage, moi, des mois de douleur. J'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis, quand me lèverai-je? Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Je vous lis dans Darby. Si je me couche, alors je dis quand me lèverai-je et quand l'obscurité prendra-t-elle fin? Et je suis excédé d'agitation jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de vers et de croûtes de terre. Ma peau se retire et suppure. Il nous donne un aperçu de sa maladie. Et il y a dans le pays d'Aran, qui serait le pays de Job, un monastère qu'on appelle le monastère de Job, où on vous montre des petites pierres aiguës, très fines, et qu'on appelle les vers de Job, hein, qui auraient été pétrifiés. Et puis, évidemment, ce n'est pas vrai. Mais enfin, c'est un souvenir de cette maladie de Job. Alors, il y a des gens qui reviennent comme... Ils arrivent avec l'eau de Lourdes ou bien une épine de la couronne de notre Seigneur ou que sais-je encore, hein, un morceau de bois de la croix. On pourrait faire une forêt avec tous les bois de la croix de notre Seigneur. Mais il y en a qui croient à ça, n'est-ce pas? Mais c'est la tradition qui rappelle... ces souffrances de Job. Mes jours sont plus rapides que la navette du Tisserand. Il voit qu'il s'évanouit sans espérance. Donc, au fond, il se voit bientôt à la limite, il se voit bientôt au bord de la fosse. C'est très rapide, mais en même temps, c'est long. C'est une nuit de douleur. Et alors là, il commence sa prière. On aura plusieurs prières. Il y en a une ici. Prière de Job. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. Si Dieu n'intervient pas maintenant, ben, ce sera trop tard. Quand Dieu voudra intervenir, s'il intervient, il ne sera déjà plus. Alors, il y a une certaine ironie. La nuée s'évanouit, elle s'en va. Ainsi, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Ben, une fois qu'on est enterré, hein, on ne revient plus dans sa maison. Son domicile ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Et il a l'air de dire, mais tu vas peut-être me chercher, mais je serai mort. Ce sera trop tard. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Puis tout à coup, il s'écrie, mais suis-je une mer ou un monstre marin? On en parlera des monstres marins. Pour que tu établisses une garde autour de moi. Vous pouvez méditer. c'est le verset 13. D'où, suis-je une mer, suis-je un monstre marin, que tu établisses des gardes autour de moi. Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche allégera ma détresse. Alors, tu m'effrayes par des songes, tu me terrifies par des visions. Eliphaz a voulu lui parler de visions qu'il avait. Je souhaiterais l'étranglement. Mon âme choisit la suffocation. Et il s'écrit, oui, la mort plutôt que ses os. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il était comment? Il était devenu un squelette. Un vrai squelette. Hein. Plutôt la mort que ses os. Il ne peut plus supporter de se voir. Il est maigre, les os sont saillants partout. Plutôt la mort que ses os. Je suis un squelette. Et c'est pas drôle d'être un squelette. Je l'ai méprise. Je ne vivrai pas toujours, mais vivre comme un squelette. Et alors, lui répond, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'a dit déjà ça? Eliphaz, hein, a dit qu'est-ce que l'homme? Eh bien, lui dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tout instant quand la douleur est continuelle? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi, pauvre Job? S'il savait que Dieu a justement le regard sur lui pour ne pas permettre que ce soit au-delà de ses forces. Et nous avons ouvert le camp par ce verset, Dieu promène ses regards sur toute la terre afin de se montrer fort avec celui qui a un cœur entièrement pour lui. Puis maintenant il dit, mais pourquoi est-ce que je suis sous ton regard? Parce qu'il a l'impression qu'étant sous son regard, Dieu l'afflige. Tandis que si Dieu détournait son regard de lui, eh bien, ça irait mieux. Vous voyez, quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Il a même de la peine d'avaler sa salive. Verset 19, pourquoi ne détournes-tu pas tes yeux de moi et ne me laisses-tu pas tranquille jusqu'à ce que j'aie avalé ma salive? J'ai péché. On dit que j'ai péché. Bon. Ben, admettons. Là, vous voyez, ceci, Camille, la version seconde n'existe pas dans le texte littéral. Ils ont mis en parenthèse, n'est-ce pas, mais pour montrer, si j'ai péché, c'est bien ce que ça veut dire, hein. Mais lui, il admet, bon, ben vous dites que j'ai péché, eh bien, j'ai péché. Mais qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Mais que t'ai-je fait? Alors, vous retrouvez dans le livre de Zacharie, si j'ai péché, ben, qu'est-ce que je t'ai fait? Ça te touche? Puis, en même temps, il a dit, mais, si tu fais le bien, qu'est-ce que ça me fait, dit Dieu? N'est-ce pas, c'est la même chose. Dieu est Dieu. Alors, si moi je pêche, à qui est-ce que je fais du mal? À moi. Tu comprends? Je me fais du mal à moi. C'est à moi que je me fais du mal. Et alors, toi qui observes les hommes, et notre version dit « espion des hommes », comme si, oui, il y a des satellites espions. Hein. Eh bien, Dieu nous regarde. On est conscient de cela. Pourquoi m'as-tu placé pour être l'objet de tes coups, de sorte que je suis un fardeau à moi-même? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi? Voilà de nouveau les pourquoi. Vous pouvez compter les pourquoi de la vie de Job. Pourquoi suis-je à charge à moi-même? Que n'enlèves-tu pas mon crime? Et ne laisses-tu passer ma faute? Il est conscient que Dieu pourrait lui pardonner, même s'il avait péché. Mais il n'est pas conscient de l'avoir fait. Car maintenant, je vais me coucher dans la poussière, puis alors, tu me chercheras, et je n'y serai plus, ce sera trop tard. Quand tu voudras t'occuper de moi, je serai mort. Comme si Dieu pouvait le chercher dans la poussière. Voilà la réponse de Job à ce premier discours. Y a-t-il des questions ? Je vous demanderai pour ce soir avec moi. 8 à 10. 8, c'est le discours d'un autre ami, donc, qui vient d'entendre maintenant la réponse de Job à Eliphaz, et Bildad.